95.7. Voici le commentaire de Bernard Drainville.
Monsieur Bernard Drainville, bon matin.
Salut tout le monde, bonne semaine.
Hey, es-tu d'accord avec ça, toi, que les Nordiques, s'ils avaient été là en 95, le référendum, le oui aurait gagné?
Je sais pas si le oui aurait gagné, mais le oui aurait fait pas mal mieux à Québec. Et donc, peut-être que oui, il aurait gagné.
Tu penses? Parce que le grand drame dont on ne parle jamais, parce que c'est tabou de le dire, mais c'est Québec qui nous a fait perdre. C'est pas Montréal, le vote ethnique.
Si, tu as absolument raison. Si Québec avait voté dans la... Québec, là, je parle de la région de Québec, OK? Pas juste Québec-ville, là. La région de Québec, si la région de Québec avait voté dans les mêmes pourcentages que le reste du Québec francophone, le oui passait. Puis moi, je peux vous dire, là, j'ai des... J'ai du monde au Parti québécois qui m'ont dit, par après, que Jacques Parizeau regrettait de l'avoir laissé partir, le club.
Ah, ouais.
Tu sais, rappelez-vous du contexte. Oui. Puis rappelez-vous du... Puis il n'était pas tout seul, là. Il y en a d'autres, là, qui n'étaient pas...
Parce qu'on leur avait demandé de l'aide à l'époque, je me souviens de ça.
Ben oui. Puis rappelez-vous, ça, c'est l'autre affaire. Parizeau, il se fait élire en disant, moi, je vais faire un référendum dans la première année, etc., etc. Sauf qu'il hérite d'un très, très important déficit laissé par Bourassa. Si je me rappelle bien, c'était un déficit de 6 milliards. Et il est obligé de commencer à fermer des hôpitaux. Dans sa première année, il a fait juste un an finalement, mais dans sa première année de gouvernement, dans sa seule année de gouvernement, dans les premiers mois qui vont suivre son élection, Parizeau est obligé de rationaliser dans le système de santé et y mettre à l'agenda des fermetures d'hôpitaux.
Ouais. Puis là, c'est dans nos membres de confier pays, tu sais.
Et là, Marcel Aubu arrive puis demande de l'aide. Puis là, Parizeau dit, écoute, je peux pas d'un côté fermer des hôpitaux puis d'un autre côté donner de l'aide pour un club de hockey. Et le monde de Québec qui tenait à leur club de hockey, il y en a beaucoup qui en ont voulu à Parizeau. Mm-hmm. Et le calcul que des stratèges péquistes, et pas les moindres, ont fait avec le recul, c'est qu'une partie de la différence du vote... entre la région de Québec et le reste du Québec francophone qui s'expliquait par le fait que les électeurs avaient voulu punir le PQ.
Hey, c'est intéressant, pareil.
Avoir laissé partir les Nordiques.
J'avais jamais entendu cette théorie-là. C'est quand même intéressant.
Moi, honnêtement, moi, j'y crois, là, parce que, bon, moi, ça fait quoi, plus de 10 ans maintenant que j'habite dans la région de Québec, là. Puis je vais te dire, il y en a qui ont encore les Nordiques gravés sur le cœur, puis qui espèrent encore le retour de l'équipe. Quoique là, ils sont un petit peu plus résignés. Mais tu sais, on ne peut plus résigner parce qu'on sait que Bettman ne veut rien savoir, puis il pense à d'autres villes avant nous autres, là, comme Houston, bon, puis tout ça. Fait que s'il y a une expansion éventuelle ou des nouveaux clubs qui s'ajoutent, on a compris que ce ne serait pas Québec qui viendra en premier, là. Fait qu'on est comme un peu résigné, mais je veux dire, il y a un paquet de monde encore à Québec là, qui ferait un méchant party s'il apprenait que l'équipe revient, là. C'est le monde, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aimais ça, avoir deux équipes au Québec. Moi, je suis un Canadien. Là. Moi, je suis un partisan des Canadiens. Qu'est-ce que tu veux? J'ai été élevé avec le Canadien. Puis tout ça. Mais moi, j'aimais ça. Qu'on ait une deuxième équipe à Québec, c'est, d'abord, ça faisait une belle rivalité. Puis l'autre affaire, c'est que quand le Canadien est éliminé, bien, il nous restait un Nordique.
Ah oui.
Évidemment, pour un Nordique, bien, c'était l'inverse, là, tu sais. Quoiqu'il y a bien des Nordiques qui haïssaient tellement Canadiens qu'ils préféraient que ce soit Boston qui gagne plutôt que Canadiens.
Tu sais, pour nous, en région aussi, pour aller voir du hockey, c'était parfait. Alors, mais, 2 heures de route.
Certain. Puis avec l'autoroute maintenant, écoute, c'est, ça se fait, là. Ça se fait dans une soirée. Tu passes en fin d'après-midi. Tu sais, tu t'en vas, milieu d'après-midi, mettons, tu arrives à Québec, tu payes une bonne bouffe, puis tu t'en vas voir ta game, puis il y a moyen de revenir. C'est sûr, tu reviens à minuit et demi, mais tu sais, je veux dire.
Fait que deux impacts majeurs au départ des Nordiques. Un référendum perdu, puis ça force plus le Canadien à être meilleur, donc le Canadien est rendu mauvais.
Parce qu'il il y a beaucoup moins de pression pour recruter des joueurs francophones. Moi, je pense que l'autre avantage d'avoir les Nordiques, c'était que le Canadien devait s'occuper un petit peu plus du marché québécois, là, puis de la Ligue, puis des joueurs francophones. Là, c'est comme...
Hey, parlant de souveraineté, là, c'était le congrès de Québec solidaire en fin de semaine et on va miser sur l'indépendance pour les prochaines élections. On est-tu en train de voir une renaissance du PQ, mais ultra à gauche?
Bah, franchement, là, non. Moi, je pense pas. C'est parce qu'il faut voir comment ils s'y prennent. Tu sais, ils disent qu'ils vont poser des gestes de rupture dès l'élection d'un gouvernement solidaire. Comme, par exemple, percevoir l'impôt du fédéral à la place du fédéral. Pensez-vous vraiment, là, mettons là, que les Québécois là, élisent un gouvernement solidaire, OK? Mm-hmm. Pensez-vous vraiment là, que le fédéral va dire « Ah, les solidaires viennent de rentrer, fait qu'on va laisser collecter l'impôt à notre place? » Voyons donc, c'est ridicule, cette affaire-là.
Non, mais les péquistes n'avaient pas une affaire de même aussi. Il n'y avait pas eu une histoire de geste de rupture à un moment donné aussi.
Où ça?
Chez les péquistes, oui. Il n'y avait pas eu une histoire de même.
Ben oui. C'est sûr, ça revient. Regarde, il y en a qui proposaient, puis il y en a encore d'ailleurs, qui sont d'avis que si tu es élu à l'Assemblée nationale, tu as le mandat de faire la sécession unilatérale. Mettons, là, tu as été élu, la CAQ n'a même pas fait 38 % des voix. Bon, ben tu te présentes au Parlement, un gouvernement majoritaire, indépendantiste majoritaire, puis déclare l'indépendance du jour au lendemain. Voyons donc. Tu sais, moi, là-dessus, je vais vous dire, je suis plutôt by the book, comme dirait l'autre. Il faut que tu ailles le peuple avec toi. Là. Le changement est tellement important. Il faut que tu fasses ça correctement par un référendum. Il faut que tu prouves ta légitimité démocratique. Tu sais, percevoir l'impôt du fédéral, ça peut se faire, mais il faut que tu le négocies avec le fédéral. Je vous rappelle qu'on perçoit déjà la TPS. Au terme d'une entente entre Bourassa et Mulroney, mm-hmm. on perçoit la TPS, nous autres, sur notre territoire. Là. C'est le Québec qui perçoit et TVQ et TPS, puis ils font un chèque, puis ils envoient la TPS à Ottawa. Donc, ça pourrait se faire, peut-être dans le cadre d'une négociation pour un rapport d'impôt unique, mais tu peux pas faire ça de façon unilatérale. C'est inconstitutionnel. C'est illégal.
Ouais, mais tu sais, de la même manière qu'ils disent que...
Hein?
Le but, c'est justement de se chicaner pour que les gens embarquent dans l'histoire de souveraineté.
Peut-être, mais pensez-vous que ça... Moi, j'ai de la misère à comprendre le calcul de Québec solidaire en fin de semaine, là. Tu sais, je veux dire, les Québécois, là, on dira ce qu'on voudra, mais c'est pas des excités.
Non, mais j'ai de la misère... En fait, Bernard, j'ai de la misère à comprendre et la stratégie du PQ et la stratégie de Québec solidaire, alors que le Bloc s'est fait élire en parlant pas de souveraineté, puis François Legault s'est fait élire en parlant pas de souveraineté. Et là, ils veulent tous les deux en parler. Ils vont mourir, je te dis.
C'est QFD, comme ils disent, ce qu'il fallait démontrer, mon Martinus. Même chose avec le lieutenant-gouverneur. J'en veux plus du lieutenant-gouverneur, moi. C'est un reliquat de la monarchie. J'en ai rien à cirer du lieutenant-gouverneur. Le problème, c'est que dans la Constitution canadienne, j'ai besoin de lui pour faire pour sanctionner les lois puis les mettre en œuvre. Fait que de dire on va éliminer le lieutenant-gouverneur, écoute bien, bonhomme ou bonne femme, si je peux me permettre l'expression, ça se dit moins bien, on va dire madame,
mm-hmm.
tu peux pas juste arriver puis dire on va éliminer le lieutenant-gouverneur. Si tu veux l'éliminer, ça prend un amendement constitutionnel. Puis comme ça touche la monarchie, mais ça prend un amendement appuyé par les 10 provinces et le gouvernement fédéral. C'est en vertu de la formule d'amendement actuelle. Dès que tu touches à la monarchie, à la fonction de la reine comme chef d'État du Canada, tu es obligé de procéder avec l'unanimité des provinces et l'appui du fédéral.
Et là, si tu ouvres la boîte de Pandore, qu'est-ce qui arrive? Ces 10 provinces qui ont des demandes.
Bien, évidemment. Alors, moi, je les ai trouvés brouillons. Je trouvais qu'ils faisaient amateur. Je trouvais que ça se tenait dans un cégep, puis je trouvais que ça faisait pas mal cégepien, leur affaire. C'était comme une gang d'étudiants boutonneux dans une salle, puis qui se chauffent entre eux, ils se parlent entre eux, ils sont dans leur tête, puis ils sont dans la pensée magique par-dessus les oreilles. Voyons donc. Si tu veux te présenter comme un parti sérieux qui aspire au pouvoir, tu peux pas arriver puis dire ben, « si vous nous élisez, on va poser des gestes inconstitutionnels les uns après les autres, on va verser dans l'illégalité, on va vous transformer en société de désobéissance civile. » Puis par ailleurs, comme le disait Martin, c'est pas ça l'enjeu qui fait vibrer les Québécois présentement. Peut-être que ça reviendra, c'est pas moi qui va s'en plaindre si jamais ça revient, mais pour le moment... Tu sais, je veux dire, ayons la lucidité de reconnaître que c'est pas un enjeu ben gagnant.
Non.
Puis par ailleurs, s'ils veulent vraiment se donner une chance de relancer la souveraineté, il va falloir à un moment donné qu'ils arrêtent de traiter les péquistes comme une gang de pas bons, puis de nationaleux, puis de xénophobes, puis de racistes, puis tatati, puis tatata. Il va falloir qu'ils acceptent qu'il n'y a pas juste leur conviction puis leur conception, dis-je, de la souveraineté qui est bonne, mais qu'il y en a d'autres. Puis qu'il va falloir que les souverainistes, à un moment donné, s'assoient et s'unissent s'ils veulent avoir une chance de relancer ce projet-là. Écoute, les pires adversaires des solidaires, c'est qui? C'est pas les libéraux? C'est pas les caquistes? C'est les péquistes, Christophe!
Absolument, ils chicanent ce qui reste de vote, tu sais. Mais tu sais, en passant, l'image de cégep de Québec solidaire, là... Tu sais, Catherine Dorion qui fait des batailles pour un code vestimentaire, ça aussi, c'est très cégep, là, on va se le dire.
Ça, c'est l'autre affaire. Avez-vous cru à leur explication?
Avez-vous vraiment cru que la raison pour laquelle elle n'était pas là, c'est parce qu'il fallait qu'elle fasse campagne dans Jean Talon?
J'y croyais jusqu'à ce que le candidat dans Jean Talon soit là dimanche.
Écoute, là, j'y crois moins, là. T'sais, franchement, prenez-moi pas pour une valise, s'il vous plaît. Donnez-moi une vraie raison, là. Mais, tu sais, je veux dire, regardez bien, là. Il y a deux députés de Solidaire, de Québec Solidaire, qui arrivent d'Option nationale, qui était le parti indépendantiste, là, fondé par Jean-Martin Hossan. Il y en a deux. Il y a Sol Zanetti, il y a Catherine Dorion. Bon. C'est un congrès sur l'indépendance. Dorion, elle s'est lancée en politique pour faire l'indépendance. Elle se pointe pas au congrès de l'indépendance. Pour rester dans Jean Talon, elle aurait pu au moins se pointer, mais je sais pas moi, un soir, un avant-midi. Puis elle n'est pas obligée toujours de faire une déclaration, tu sais. Tu peux passer à côté des journalistes avec ton plus beau sourire puis leur dire « Bonne journée, on est content d'être ici aujourd'hui. Bonjour les journalistes, on va parler d'indépendance, je suis de bonne humeur. Salut tout le monde. » Tu n'es pas obligé de parler aux journalistes. Non, non. Ils vont le remarquer. Ben oui, ils vont l'écrire, ils vont le dire, ils vont prendre la clip de toi qui marche à côté avec le sourire. Mm-hmm. Mais tu feras pas, c'est pas toi qui vas voler le show. Moi, je pense que la raison pour laquelle ils ont demandé à Catherine de rester à Québec, c'est qu'ils sont un petit peu tannés de ces distractions. Tu sais, c'est la fin de semaine où les deux, là, Massé et Nadeau-Dubois, sont reconduits comme chefs. Ils ont le goût d'avoir les Kodak sur eux autres. Ils n'ont pas le goût que Catherine vole le show avec sa dernière parure vestimentaire ou sa dernière déclaration. C'est ça, la raison. Puis tu sais, je veux dire... T'as bien raison, Martin, de dire que le candidat, lui, le candidat de Jean Talon s'est pointé, alors qu'elle avait pas supposément le temps d'y aller. Mais tu sais, mercredi, elle a le temps d'aller à Rimouski. Là, j'ai vu ça passer, là. Ça va parler d'urgence climatique à l'Université du Québec à Rimouski. Elle a le temps, pendant que le Parlement siège, elle a le temps d'aller à Rimouski, mais elle n'avait pas le temps, fin de semaine, d'aller à Longueuil parler d'indépendance. Non, c'est ça, spécial. Se tient pas
de bout. Parlons de l'entente entre le gouvernement et les médecins spécialistes. Et je te pose la question, parce que le chiffre qui circule, c'est 500 millions.
Ouais.
Si je t'enlève 500 millions de ta paye, est-ce que tu sors de l'entente avec un sourire?
Ben non, mais c'est ça. Puis d'abord, 500 millions, ça, je l'ai confirmé. Là. Okay. C'est 500 millions, mais en 2023. Pas tout de suite. Mais en 2023, Québec récupère 500 millions. Ça veut dire 10 % de la rémunération totale des spécialistes. Les médecins spécialistes au Québec, là, ils gagnent autour de 5 milliards par année. Quand on inclut là, les à côté, là, c'est 5 milliards par année. Fait que là, tu leur enlèves 10 % de leur rémunération. À cette heure, faut voir ce que tu leur enlèves réellement. Est-ce que les médecins spécialistes renoncent vraiment à 10 % de leur paye? Est-ce que les tarifs, tu sais, ils sont payés à l'acte, les médecins, là? Mm-hmm. Tu sais, quand tu fais check-a-check, là, eux autres, ils reçoivent. Pour chaque acte médical, ils reçoivent un montant d'argent.
Oui.
Bon. Pensez-vous vraiment que les médecins spécialistes ont négocié une entente en vertu de laquelle ils diminuent de 10 % le tarif qu'ils reçoivent pour chacun des actes? Je te parle d'une moyenne, là?
Sûrement pas.
Ben non. Ben non, ben non, ben non. Fait que là, tu sais, Le diable est dans les détails. Puis les textes finaux ne sont pas négociés encore. Puis moi, je vous prédis que les prochaines semaines, là, à un moment donné, je vous garantis que ça va chiquer à guenille. Moi, j'avais l'impression, je les écoutais parler, j'avais l'impression que c'était davantage une trêve pour éviter une loi spéciale qu'ils avaient conclue plutôt qu'une entente en bonne et due forme avec une compréhension conjointe et identique. De ce sur quoi il s'est entendu. Mmh. Écoute, dans les heures qui ont suivi, Francœur a sort puis a dit, la présidente de la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes, a dit « On est où on voulait être dans la moyenne canadienne. » Pas en haut, mais certainement pas en bas. Puis là, voyant ça, Christian Dubé, qui négociait pour le gouvernement Legault, est obligé de sortir quelques heures après pour dire « Je m'excuse, là. » Mais ils sont à moins 9 % en vertu de l'entente. C'est la commande que j'ai eue du PM, puis c'est ce que j'y ai livré. Fait que les médecins disent, nous autres, on est encore dans la moyenne au terme de l'entente, puis Dubé il dit, non, vous êtes à moins 9. Fait que quand je vous dis qu'il y a peut-être un petit os dans le poulet, là, puis que les affaires sont pas tout à fait réglées puis attachées encore très, très solidement, je pense que ça va se confirmer dans les prochains jours. En d'autres mots, ça reste fragile. Ça reste fragile, puis je suis convaincu qu'il reste des choses à négocier. Mais cela étant, s'ils finissent par s'entendre effectivement sur des textes finaux, puis que le gouvernement Legault va chercher 500 millions récurrents, sans avoir eu recours à une loi spéciale, sans qu'il y ait eu de moyens de pression des médecins. C'est un gain majeur.
Mm-hmm.
Parce que cet argent-là, il va être retourné dans le système de santé, là.
Oui, mais là, de quelle façon? Puis, c'est toujours...
C'est ça.
500 millions dans le système de santé, ça va-tu paraître tant que ça? Ça dépend où tu le mets.
Bien, c'est ça. Il va falloir que ce soit ciblé. On sait qu'ils veulent prendre une partie de cet argent-là pour bonifier notamment le salaire des préposés bénéficiaires qui en ont bien besoin, tu sais. Mm-hmm. Il va falloir le cibler, mais Dominique, parce que tu as raison de dire, écoute, là, actuellement, le budget santé, services sociaux, ça doit être quoi? Trentaine de milliards, peut-être autour de 35 milliards?
Oui, puis on a l'impression qu'à chaque milliard qu'on ajoute, on ne voit pas la différence.
Bon, mais là, tu rajoutes 500 millions. Si, écoute, je n'ai pas vérifié le chiffre récemment, là, mais c'est certain que ça doit être autour de ça, 35, là, plus ou moins une couple de milliards. Fait que, tu sais, 500 millions, c'est un beau montant. Mais
ben, quand tu dis que ça coûte 58 millions pour synchroniser des lumières de piétons puis rajouter 6 secondes à Montréal, tu sais, fais le calcul, 500 millions, le réseau de la santé au grand complet, c'est quand même pas tant que ça, mais l'image est belle. Prendre aux riches, redonner aux plus pauvres du système, c'est parfait pour le gouvernement.
Et voilà. Mais pour le moment, le gouvernement veut faire attention. Ils veulent pas avoir le triomphe trop exubérant. Ils veulent avoir le triomphe modeste parce qu'ils savent que Mme Francoeur doit vendre ça à ses médecins maintenant. Là. Puis ça devait se faire lors d'une assemblée des délégués le 28 novembre, donc jeudi de la semaine prochaine. Puis là, ils ont repoussé l'assemblée. Il va falloir qu'elle explique comme il faut l'entendre. Puis t'as raison de dire, Dominique, que quand on va chercher de l'argent dans tes poches, c'est vraiment ça qui prévoit l'entente. Normalement, t'es pas trop heureux de ça.
Normalement,
tu sais, alors il devrait, normalement, si c'est effectivement un vrai 500 millions qu'ils vont chercher dans les poches des médecins, il va avoir de la résistance, c'est bien entendu.
Terminons avec Justin Trudeau. Le nouveau Conseil des ministres va être annoncé mercredi.
Oui, alors je veux juste vous dire, là, les rencontres entre Trudeau et ses ministres, ses nouveaux ministres, ceux qu'il va assermenter mercredi, là, sont terminées. Il en reste seulement quelques-unes, là. On me dit peut-être une ou deux. Mais pour l'essentiel, Trudeau a rencontré tout le monde. Et moi, ce que je sais, c'est que Pablo Rodriguez, Marc Garneau et Mélanie Joly, au moins ces trois-là ont été rencontrés par Trudeau. Il y a différentes personnes qui me parlent, puis j'ai pu, par corroboration, là, confirmer que ces trois-là ont été rencontrés. Donc, si je comprends bien, Rodriguez, Garneau et Joly vont être renommés ministres. Mm-hmm. C'est ce que j'en déduis. Alors, évidemment, ceux qui apprennent que les rencontres puis qui n'ont pas eu leur rencontre, ben ils ont compris qu'ils ne seront pas ministres. T'sais? Puis ça, c'est jamais très, très agréable. Mais je veux juste vous dire, ce que j'entends un nom qui circule présentement à Ottawa. Il s'appelle Marc-André Blanchard. Il n'est pas très connu du grand public. C'est l'actuel ambassadeur du Canada aux Nations Unies. Marc-André Blanchard, il a été directeur général du Parti libéral du Québec sous Jean Charest. Et j'entends son nom circuler pour le poste de secrétaire principal de Justin Trudeau.
Okay.
Vous vous rappelez Gérald Botts, là, qui a sacré son camp dans la foulée de l'affaire SNC, c'était le plus proche conseiller de Trudeau, ami du temps de l'Université McGill, puis tout ça. Botts a démissionné, puis est parti. Et il n'y a personne qui a comblé ce poste-là. Et là, j'entends dire que sur la courte liste des candidatures pour le remplacer, pour remplacer Botts, pour occuper ce poste stratégique, à certains égards, le poste numéro un de conseiller de Trudeau, il y a le nom de Marc-André Blanchard. Donc, issu de la filière québécoise du Parti libéral, il a dirigé le grand cabinet d'avocats McCarthy Tétrault. Il a été basé à Toronto à un moment donné, justement, pour diriger le bureau, même si c'est un bureau qui a été fondé à Montréal. Puis il y a un gros bureau de McCarthy Tétrault à Montréal. Mais il s'est déplacé à Toronto pour diriger le bureau. Donc, il s'est fait tout un réseau dans le milieu des affaires à Toronto. Donc, ce gars-là est bien branché sur Montréal, bien branché sur Toronto, ambassadeur du Canada aux Nations Unies. Trudeau s'est tourné vers lui en 2015 pour le comité de transition. Il siégeait sur le comité de transition. Il a conseillé Trudeau sur la composition de son conseil des ministres en 2015. Donc, surveillez ce nom-là parce qu'on dit beaucoup que Trudeau doit renforcer le contingent de Québécois autour de lui. Il y a beaucoup d'Ontariens, beaucoup, beaucoup d'Ontariens, mais il n'y a pas assez de Québécois. Et okay. Ça pourrait être une manière de renforcer l'influence des Québécois dans l'entourage de Trudeau que de nommer ce Marc-André Blanchard. Donc, surveillez ça.
Dossier à suivre. Très intéressant. Merci beaucoup, Bernard.
Bonne journée, tout le monde.
Bonne journée. Bernard Drainville, il est 8h32.
Kick 95.7. Voici le tour.